Le journal avec vous, Jérémy Pignard.
Bonjour. Montfaucon replonge dans la crise politique. 4 conseillers communaux claquent la porte quelques jours seulement après la prise de fonction du nouveau maire, excédé par les critiques d'un groupe de citoyens. Méthode plus douce à Halle, où on parle seulement de réorganisation du conseil communal. Il pourrait passer à 7 membres contre 9 actuellement. Objectif, être plus efficace. C'est rare. Dans l'histoire du cinéma, l'acteur américain Alec Baldwin a tiré à balles réelles sur plusieurs personnes lors d'un tournage. Un mort et un blessé grave. La piste de l'accident est privilégiée. Une belle journée ensoleillée nous attend demain après dissipation des brouillards matinaux. Attention à l'aube, des gelées sont annoncées, pas plus de 11 degrés au meilleur de la journée. La commune de Montfaucon est à nouveau dans la tourmente. 4 conseillers communaux annoncent aujourd'hui leur démission avec effet immédiat. Pierrette Aubry, Mélina Brulart, Daniel Erard et Loïc Sprunger. Ils claquent la porte quelques jours seulement après la prise de fonction du nouveau maire Albert Gonin. Les démissionnaires évoquent des tensions qui minent le village franc-montagnard depuis plus d'un an. La fermeture d'une classe, souvenez-vous, avait notamment mis le feu aux poudres. L'arrivée d'Albert Gonin ne permet pas de repartir sur de nouvelles bases, selon le désormais ex-conseiller communal Daniel Erard.
Ça ne permet pas d'apaiser les choses. On a tenu à assister à la première séance du conseil pour pouvoir débattre, voir les idées, comment il allait se positionner face à tous ces tracas de cette dernière année, hein, je veux dire. On a pu s'exprimer, eux ont pu s'exprimer, et puis on a pris la décision que, je veux dire, on avait fait tout ce qu'on pouvait, âme et conscience, je veux dire, pour le bien de la collectivité. Je veux dire, maintenant, on nous reproche beaucoup de choses, donc on laisse la place à des nouveaux.
Mais ces reproches, vous les avez aussi sentis de la part du nouveau maire, des nouveaux membres au conseil communal même, si on veut ?
Oui, tout à fait. Oui, ça a été clairement dit, vous avez fait tout faux. Donc je veux dire, il faut savoir accepter et puis se retirer.
Et cette vague de départ ne surprend pas le nouveau maire Albert Gonin.
Je ne suis pas étonné de ces 4 démissions au conseil communal. Il y a longtemps qu'il y a un malaise au conseil communal. Je reprends une commune en difficulté et ces démissions en bloc démontrent de la faiblesse et de la lâcheté. Quitter le bateau quand un nouveau maire arrive, ce n'est pas digne vis-à-vis de la population. Je suppose que tout était prévu d'avance pour se libérer de leurs charges. L'ancien maire, M. Hénin, a démissionné ainsi que 2 de ses conseillers, et maintenant j'arrive en tant que maire, et aujourd'hui, après 3 jours de fonction, 4 conseillers démissionnent. Une page se tourne pour Montfaucon. Maintenant, je n'ai plus rien à vous dire pour le moment.
Un dossier réalisé par Alexandre Rosset. Avec ses 4 démissions, le conseil communal de Montfaucon ne peut plus siéger en l'état actuel. Ne reste que le maire qui doit gérer les affaires courantes et 2 conseillers communaux, Gaëtan Marchand et Marc Dellenbach. Selon la commune, une élection complémentaire sera organisée le 9 janvier. Pas de démission en bloc à Halle, mais la commune se dirige vers une réorganisation de ses autorités. Le conseil communal pourrait passer de 9 à 7 membres. Le projet sera présenté à la prochaine assemblée communale du 28 octobre. Le village Ajoulot est la dernière commune jurassienne non fusionnée à fonctionner avec un exécutif à 9 têtes. L'occasion de franchir le pas selon les autorités. Les réflexions pour repenser le fonctionnement du conseil communal ne datent d'ailleurs pas d'hier. C'est ce qu'explique le maire de Halle, Stéphane Babé.
Ça fait plusieurs années maintenant qu'on est en train de réfléchir à diminuer la voilure de l'exécutif pour clarifier et surtout revaloriser le poste de chacun des membres du conseil communal d'une part. Et lorsqu'on regarde ce qui se passe dans les autres communes, à Halle, nous sommes la seule commune non fusionnée qui compte encore 9 membres autour de sa table de conseil. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième, c'est qu'on se rend compte qu'avec la digitalisation des procédures et l'arrivée de Jurac, typiquement, ou ça peut être typiquement un exemple, on a des simplifications dans les choix et surtout dans la décision autour de la table du conseil, ce qui va simplifier aussi l'ensemble de nos travaux.
Est-ce que ça signifie que ce projet, il a aussi une vocation à faire des économies ou pas ?
Alors non, ce n'est pas le but. Au contraire, c'est même de revaloriser l'ensemble des postes au sein du collège de l'exécutif communal, simplement parce qu'aujourd'hui, on a vraiment l'impression de faire du bénévolat, pour être très clair, et que c'est aussi une manière donc, de revaloriser ces postes.
Des propos recueillis par François Comte, le passage de 9 à 7 conseillers communaux pourrait intervenir dès les élections de l'an prochain, avec une entrée en vigueur en 2023. Le responsable du transfert de Moutier au sein de la commune prévotoise est désormais connu. Patrick Cerf a été nommé par le conseil municipal en qualité de chef de projet en vue du départ de la cité dans le canton du Jura. Cet ancien prévotois, journaliste de formation, actuel député jurassien, travaillait dernièrement au sein de la direction d'Unia Transjurane. Il prendra ses nouvelles fonctions dès le 1er novembre pour un engagement à 80% jusqu'au 31 décembre 2024 si le transfert est finalisé à cette date. Deux oui solides et un peut-être. L'initiative pour des soins infirmiers forts serait acceptée à 78% selon le dernier sondage GFS Bern pour la SSR. Les citoyens auraient aussi validé la loi Covid et le certificat Covid à 61%. Le peut-être concerne l'initiative pour désigner les juges fédéraux par tirage au sort. 43% de oui, 42% de non et surtout 15% d'indécis. À un mois des votations, est-ce qu'on peut dire que les jeux sont faits, Serge Jubin ?
Pour les deux premiers objets, peut-être bien, même si les initiatives s'essoufflent en général en cours de campagne et sont souvent rejetées au final. Celle pour des soins infirmiers forts dispose d'un appui inhabituellement élevé, près de 80% et 48% d'ultra convaincus. Même s'ils peuvent s'appuyer sur la majorité du Parlement et le Conseil fédéral, les opposants n'auront pas les moyens nécessaires pour renverser l'opinion, même s'ils misent sur la raison plutôt que sur le cœur. Et comme le contre-projet du Parlement est peu connu, il semble impossible d'inverser la tendance. Si l'initiative de l'Association des infirmières et des infirmiers devait être acceptée le 28 novembre, ce serait historique et la première fois qu'une initiative syndicale passe la rampe. Le soutien est solide à la loi Covid, dans la mesure de l'acceptation déjà en votation de la première version au mois de juin, 61% pour, 36% contre. Il y a peu d'indécis, l'opinion semble faite. Seuls l'UDC et les groupements hostiles à la vaccination s'y opposent, mais comme les vaccinés sont majoritaires, la loi devrait l'emporter. Dernier objet, l'initiative inattendue qui veut désigner les juges par tirage au sort afin de garantir leur indépendance. 43% de oui, 42% de non, pas de majorité claire et beaucoup d'indécis. Le problème pour cette initiative, c'est le peu d'intérêt qu'elle suscite et a priori l'absence de pertinence. Les initiants devront démontrer que les juges ne sont pas indépendants pour espérer l'emporter. Ça a tout d'une utopie.
Et le sondage GFS Bern produit des résultats comparables à ceux du sondage de Tamedia présenté il y a une semaine. GFS Bern a interrogé plus de 14 000 citoyens. La marge d'erreur est estimée à plus ou moins 2,8 points. Les accords de Paris sur le climat se dirigent tout droit vers un échec. C'est l'avis du secrétaire général de l'ONU. Il s'est dit très inquiet ce matin à 10 jours du sommet climatique de la COP26 à Glasgow. Selon lui, les progrès de ces dernières semaines ne sont pas suffisants. Le temps manque pour éviter, je cite, un désastre. Les habitants de Melbourne, eux, ont pu respirer un petit peu à nouveau. Ils ont profité depuis ce matin de la réouverture de la ville après une longue série de confinements. Depuis le début de la pandémie, ils ont dû rester chez eux près de 260 jours au total. Les restrictions qui ont débuté le 5 août sont désormais levées. 70% des personnes éligibles à Melbourne et dans l'état de Victoria sont entièrement vaccinées. Le tournage d'un film a viré au drame au Nouveau-Mexique. Aux États-Unis, l'acteur américain Alec Baldwin aurait tué une femme et blessé une autre personne avec une arme à feu, selon la police. Il s'agirait d'un accident de tournage, Alexandre Michler.
Selon les enquêteurs, le drame semble lié à une arme servant d'accessoire sur le tournage de Rust, un western écrit et réalisé par Joel Souza avec Alec Baldwin comme coproducteur. Et c'est bien ce dernier qui est l'auteur du tir de pistolet qui a tué la directrice de la photographie et blessé le réalisateur. Il aurait actionné l'arme durant une répétition sans se douter que des munitions réelles s'y trouvaient. Les enquêteurs cherchent désormais à savoir quel type de projectile a été tiré et comment. Selon le communiqué, on ne sait toujours pas combien de coups ont été tirés. Cet accident rappelle une histoire similaire aux États-Unis. En 1993, l'acteur Brandon Lee était décédé sur le tournage du film The Crown après avoir été blessé au ventre par balle dans des circonstances similaires. Âgé de 63 ans, Alec Baldwin s'est rendu particulièrement populaire aux États-Unis ces dernières années. Il est notamment connu pour ses imitations de Donald Trump dans la célèbre émission satirique Saturday Night Live.
On reste aux États-Unis, mais pour parler d'un poète et chanteur qui a marqué la chanson française, on fête aujourd'hui les 100 ans de la naissance de Georges Brassens. Figurez-vous qu'il se fait aussi un petit nom outre-Atlantique grâce à Pierre de Gaillande, chanteur et musicien franco-américain. Il a traduit des chansons du poète de Sète en anglais et avec son groupe Bad Reputation, Pierre de Gaillande porte les chansons et l'univers de Brassens dans les pays anglophones et ses spectateurs l'accueillent plutôt bien.
Ils adorent et je commence à m'apercevoir que le spectacle, c'est un peu du burlesque. Il y a beaucoup de choses un peu choquantes et grossières, tout ça. Pas grossier, mais, I don't know, bleu. Et c'est vraiment bien parce que c'est les gens qui viennent, si ce sont des Américains, on est dans une espace française là pour la soirée et n'importe quoi peut se passer. C'est un peu comme l'esprit de burlesque, on est libre. Et ils adorent ça, vraiment. C'est pas une parodie de la France ou du français.
Vous jouez en octobre pour le centenaire donc de Brassens à Sète. Comment oui. Les gens de Sète, les puristes, ils accueillent vos traductions?
Très très bien. J'ai déjà joué à Sète et j'ai l'énorme chance et plaisir de jouer avec Joël Favreau, qui est le guitariste qui jouait avec Brassens dans les dernières années de sa carrière. Et Joël est un merveilleux guitariste qui m'a donné l'honneur de jouer avec lui et il m'accompagne. Alors ça aide beaucoup parce que j'ai Joël avec moi. Et Joël lui-même dit qu'il est l'homme qui a touché l'ours. Alors moi, je touche l'homme qui a touché l'ours. C'est bizarre, mais ça aide beaucoup. Mais je pense que les gens apprécient parce que je le fais avec un maximum de respect. J'adore la musique de Brassens, c'est sérieux pour moi et c'est absolument sacré. Alors, on s'amuse bien et je pense que les Français apprécient ça.
Pierre de Gaillande qui répondait donc à Léandre Béret, le chanteur franco-américain, se produit, comme vous l'avez entendu, actuellement en France. Retrouvez d'autres extraits et des interviews également sur rfj.ch.
RFJ, il est 12h27.
Sport. Le volleyball Franche-Montagne a l'occasion de décoller dans le championnat de Liga. Il reçoit la visite de Valtra ce soir à 20h à Seignelégier. L'occasion d'engranger un premier succès cette saison pour les filles de Rui Moreira. Elles n'ont pris qu'un point pour l'instant en 3 matchs, le même bilan que leur adversaire du soir. Honneur aux dames pour lancer la saison de ski alpin. La Coupe du Monde commence ce week-end avec les traditionnels géants de Sölden en Autriche. La Suisse a un statut de meilleure nation du cirque blanc à défendre cet hiver. Elle sera en quête d'une 3e couronne d'affilée. Parmi les favorites très attendues, la tessinoise Laragout Berami, 2e du classement général de la Coupe du Monde l'hiver dernier. Elle sait que son ski doit être affûté en géant pour signer une bonne saison.
Pour moi, c'est toujours été comme ça, oui. Dans ma carrière, c'était plus ça, c'était la clé. Si j'arrivais à être régulière en géant, c'était plus simple de réussir à m'adapter dans les différentes conditions, surtout en descente. En super-G, c'est un peu différent, mais pour être rapide chaque week-end aussi en descente. J'ai jamais essayé de gérer quelque chose. J'ai surtout essayé de travailler pour être bien et puis de prendre un jour après l'autre et essayer de continuer à croître dans ça. Donc j'ai pas de focus particulier sur quelque chose, sinon pas d'être saine et de réussir à gérer mes énergies, à être bien sur toute la saison.
L'équipe de Suisse féminine est orpheline en ce début d'hiver de Wendy Holdener et Corinne Souter, toutes deux blessées. Elle doit aussi se montrer patiente avec Michelle Guizine qui se remet d'une mononucléose. D'autres skieuses vont donc devoir prendre le relais à l'image de la Valaisanne Camille Rast.
Je pense que je dois le voir course après course parce que je l'ai vu l'année passée. En une course, ça peut aller très vite. L'année passée à Flachau, en partant avec le 57, j'arrive à rentrer dans les 30 en première manche et à finir 6e. Donc je pense que ça ne sert à rien de planifier trop loin. Là, à Sölden, ça va être la même chose. On ne sait pas la météo qu'il y aura. Souvent, les conditions sont changeantes. Donc la visibilité, ça peut faire énormément de choses. Et je pense que ça va être le cliché classique du sportif où on va voir jour après jour et course après course. Mais pour le moment, on voit l'objectif à long terme, mais pas forcément très précis.
Course après course, jusqu'au JO?
Bah, c'est le but. On est énormément à avoir les capacités d'aller au JO pour seulement 4 places. Il ne faut pas l'oublier qu'il va falloir sortir des grosses courses, des gros exploits, on va dire ça comme ça, pour vraiment dire « Ok, j'ai ma place et maintenant je suis safe avec ça ». On va dire course après course de nouveau et puis essayer d'aller chercher ces points de qualification pour aller en Chine.
Camille Rasto au micro de notre confrère de Rhône FM, Hugo da Custodia, premier géant de Soldon demain à 10h. Et puis le Tour de Romandie fera un passage dans l'Arc Jurassien l'année prochaine. La première étape de l'épreuve cycliste s'élancera de la Grande Béroche dans le canton de Neuchâtel. Ce sera le 27 avril au lendemain du prologue disputé à Lausanne. Cette première étape emmènera le peloton des terres neuchâteloises à Romont dans le canton de Fribourg. Le Tour de Romandie a levé le voile aujourd'hui sur l'identité de ces deux communes. C'était les dernières inconnues de la prochaine édition.